Québécois ou bonjour, ça dépend sur quel côté de la rivière vous vivez. Ben, bonjour, bienvenue à cette émission. Un invité qu'on est particulièrement heureux de recevoir aujourd'hui, Michel Jean, bonjour.
Oui, bonjour.
Un livre extraordinaire, Cocoum, qui a gagné le prix France-Canada, etc. Moi, j'irais assez loin. Pour... On est tellement plus vieux de mon côté que de votre côté, mon cher. C'est aussi important comme livre comme Agaguk de Yves Thériault en 1958, à mon avis. Parce que ça décrit une nation, une culture finalement, mais à travers des émotions extraordinaires. Quel beau livre!
Merci, merci, merci.
Tu veux nous on va se tutoyer parce qu'on est des gens de plateau. Bon,
on est des anciens collègues.
Oui, c'est ça. On ne dira pas comment. Et ton appartenance aux Autochtones, c'est de quelle nature exactement?
C'est ma mère. C'est ma mère qui est Innu. Mon père est blanc, ma mère est Innu. On n'a pas été élevé, j'ai pas été élevé dans la communauté. En fait, ma grand-mère a marié mon grand-père était maternel, était moitié blanc, moitié Innu, mais comme il était un fils illégitime, il avait un statut de blanc. Fait que quand ma grand-mère elle s'est mariée avec lui, à l'époque, la loi sur les Indiens, ils ont forcé à quitter la communauté puis à partir. Puis ma grand-mère avait été privée de ses droits. Et tout à l'époque, bon, elle les a récupérés par la suite, puis nous aussi, là, parce que la loi, elle était jugée anticonstitutionnelle par la Cour suprême. Mais c'était comme ça à l'époque. Et donc, ma grand-mère a élevé sa famille à Alma, au Lac-Saint-Jean.
Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur statut à cause de cette loi inique. Hein?
Oui, qui l'ont récupéré par la suite, parce que ça a été contesté devant les tribunaux éventuellement. Puis bon, en fait, c'est parce que c'était une loi qui visait à... L'objectif, c'était d'assimiler les Autochtones le plus possible. Les femmes en mariant un blanc devenaient plus autochtones, donc ça éliminait beaucoup d'Autochtones. Puis l'objectif du gouvernement, ça a longtemps été ça au Canada, de régler le problème, entre guillemets, autochtone. Les pensionnats autochtones, ça visait ça, assimiler les Autochtones. La loi sur les Indiens favorisait ça aussi. C'est fait que nous, on n'a pas été élevés dans la communauté. Et moi, j'ai grandi dans une famille où j'ai toujours eu beaucoup de curiosité par rapport à mes origines. Mais même si il y avait quelque part une fierté de ça, il n'y avait pas une ouverture beaucoup d'en parler.
De ta part ou de la part des gens autour?
De la famille, oui. Ma mère, c'était la seule famille autochtone dans la ville d'Alma à l'époque. Fait que c'était pas quelque chose qui était vraiment valorisé. Ils se fait traiter de sauvagesse, tout ça, là, tu sais.
Quand t'es dans la réserve, tu te fais traiter de blanc, tu te fais sortir. Puis quand t'es sorti, tu
exactement,
la même chose dans le sens inverse. Ouais.
Et là, et même ma grand-mère, quand j'étais proche de ma grand-mère, puis... Elle venait chez nous, elle a passé beaucoup de temps chez nous. Puis moi, je posais toutes sortes de questions, apprends-moi à parler, apprends-moi toutes sortes de choses. Puis on écoutait Cachetine à la radio, puis je disais, qu'est-ce qu'il dit dans la chanson? Elle dit, ah, il parle pas comme nous autres. Parce qu'ils n'ont pas le même accent à Ouachat qu'à Mastoyash. Et parce que les Mastoyash, c'est un peu comme les Franco-Ontariens des Innus, c'est-à-dire on est proche des Cris, des Naskapi. Puis il y a comme un Innu de mauvaise qualité selon les puristes qui sont sur la côte nord.
Mon Dieu!
Fait que ma grand-mère était toujours réticente d'en parler. Et c'est vraiment quand elle est décédée que là, le contact pour moi s'est fait avec les gens de la famille, avec les cousines. Puis c'est là que j'ai commencé, moi, plus à me rapprocher du côté Innu de la famille.
T'avais quel âge à ce moment-là?
Ouais, ça fait seulement une quinzaine d'années, ouais. Une quinzaine d'années seulement.
Une quinzaine d'années, donc t'avais 2 ans, c'est ça?
Exactement, ouais. 2 ans. 18 ans, non. J'étais déjà vieux. Mais c'est surtout que, qu'est-ce qui est arrivé en réalité, c'est que quand j'avais toutes ces questions-là qui étaient sans réponse en moi depuis des années, puis là, je vivais avec ça en réalité. Puis là, ma grand-mère était morte, puis j'avais quand même le regret de me dire, il y a beaucoup de questions pour lesquelles j'aurais jamais de réponse, puis j'aurais dû insister plus, etc. Puis à ces funérailles, ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, pour ceux qui sont déjà allés dans les funérailles, là, avant de fermer le cercueil, aller à l'église, là, on fait une dernière prière, juste les proches de la famille. On fait ça, puis là, l'employé du centre funéraire vient pour fermer le cercueil, puis là, il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'on pourrait faire une dernière prière dans la langue de Jeannette, qui était ma grand-mère? Fait que là, c'était la cousine à ma mère, fait que les gens ont dit oui, bien sûr. Et là, tout le côté mastoyage de la famille a commencé à prier en Innu. Puis là, ils chantent. C'est un peu comme en Amérique du Sud, je dirais. Puis c'était vraiment beau. C'était une scène de film. Puis là, c'était comme si il y avait encore un de ses frères qui était vivant, ma grand-mère, à l'époque. Mon oncle Gérard. que je connaissais. Et donc là, ça a fait comme une scène de film. On aurait dit que vraiment, on est tous venus les larmes aux yeux. Et ensuite, on est allé au restaurant après la cérémonie. Puis là, la cousine de ma mère, qui s'appelle Jeannette, comme ma grand-mère, elle me dit, elle dit, faut que je te parle, Michel. J'ai dit, oui. Moi, c'était la première fois que je la voyais. Elle, elle me connaissait parce que je suis journaliste télé, donc elle m'a vu à la TV. Elle dit, faut que je te dise quelque chose d'important. J'ai dit, oui, je t'écoute. Elle dit, toi, Michel, elle dit, l'Indien, là, tu l'as en toi. Moi, j'ai dit, c'est beau, mais qu'est-ce que tu veux dire, Jeannette? Ben, elle dit, moi, je t'ai souvent vu dans ton travail dans des situations où les gens s'excitent autour de toi, les gens sont nerveux, les gens crient, les gens sont vraiment nerveux. Elle dit, toi, t'es calme. Ça, c'est Indien. Ça m'a frappé parce que c'est vrai que je suis comme ça, mais moi, je me suis toujours dit que c'était un trait de caractère. Et elle, me disait que c'était un trait culturel. Et là, c'est là que moi,
toi,
la démarche...
Je pensais que tu avais du mérite, mais t'en avais pas.
Exactement, exactement, c'est ça. Ouais. Fait que là, j'ai commencé à me dire, OK, c'est quoi la part d'Autochtone qui a survécu en moi? Puis c'est là que pour moi, c'est comme un peu le chemin de Damas, puis c'est là que la quête a commencé, que j'ai renoué contact avec les gens Massouyash, puis que j'ai commencé à rétablir des liens, des ponts. Parce que, comme moi, mes deux frères, on est trois garçons chez nous, ils n'ont jamais eu de curiosité pour ces questions-là. Ils commencent maintenant là, à lire mes livres, puis à dire, ah, OK. Puis, alors que moi, c'était le contraire, tu sais, ça dépend toujours, la part d'Indien qui reste en nous est toujours un peu aléatoire, j'ai l'impression.
Étais-tu bien accepté dans la communauté quand tu y retournais comme ça?
Ben oui. Les gens savaient qui j'étais, les gens connaissaient ma grand-mère, connaissaient ma mère, connaissaient ma famille. Tu sais que même si moi, j'ai pas grandi dans la communauté, tout ça, quand je joue à Massouyash, les gens savent qui je suis, les gens savent, ils connaissent Jeannette, Almanda, dont je parle dans le livre, tout le monde connaît Almanda à Massouyash. Les gens savent qui je suis, connaissent ma lignée familiale. Je suis resté proche maintenant avec Jeannette, la cousine de ma mère, j'y vais de temps en temps, tout ça. Fait qu'il y a pas, puis je rencontre les gens, puis non, les gens sont super ouverts, puis je suis toujours super accueilli. On a fait le lancement de Koukoum à Massouyash parce que c'était important pour moi de le faire là parce que je trouvais que c'était comme je le rendais à la communauté. Tu sais, c'était l'histoire de la communauté que j'écrivais à travers l'histoire de ma famille. Puis, il est venu 100 personnes au musée de Massouyash. C'est quand même beau. Il était plein, là. C'était plein. Puis le chef est venu. Puis la directrice du musée m'a dit, Monsieur Jean, merci de faire un livre sur un personnage important dans notre communauté. Alors, tu sais, je suis pas comme un...
T'es pas un intrus, là.
Non, pas du tout. Non, je pense pas. Je suis pas quelqu'un qui a grandi, là. Puis j'ai pas la prétention, moi, de comprendre les Autochtones qui ont grandi en communauté. C'est tout un autre univers que moi, je connais. Je connais pas je connais plus que la majorité des gens, mais que je connais pas pour l'avoir vécu.
T'as mentionné tout à l'heure, Michel, le fait que l'accent est différent, l'accent inou est différent d'un village à l'autre, d'une réserve à l'autre, finalement. Est-ce qu'il y a vraiment des accrochages d'une nation à l'autre, d'un endroit à l'autre, ou si
non.
Non?
Ouais, c'est comme actuellement, entre les Wendat et les Inuits de chez nous, il y a des disputes là, pour le parc La Vérendrye, parce que les Inuits disent on a toujours vécu là. Les Wendat qui sont arrivés plus tard, ils disent oui, mais c'est aussi notre cour arrière. Tu sais, t'as ces disputes-là là, qui concernent ça. Mais sinon, non, au contraire, en fait, il y a une grande solidarité, moi, je pense, entre Autochtones qui se considèrent frères et sœurs. On s'appelle frères-sœurs. Puis, il n'y a pas de tension, au contraire. Je veux dire, il y a une grande fraternité, moi, je pense, entre les Autochtones au Québec. On l'a vu quand il y a eu Joyce Echaquan, par exemple.
Ouais.
Tous les Autochtones se sont sentis interpellés de la même manière.
Dans Koukoum, je voudrais savoir la part de vérité, la part de vraisemblable. Est-ce que tout est exact ou vraiment tu te laissais aller un peu, à romancer un peu?
Je suis allé, j'ai mis le plus exact possible. C'est-à-dire que j'avais pas la prétention de faire une biographie. Alors, c'est pas la biographie d'Almanda Siméon, mais il y a beaucoup d'éléments qui sont vrais, et ça forme la structure du livre. J'ai eu la chance quand même, quand j'ai écrit ce livre-là, de compter, bon, outre les témoignages des gens dans la famille, il y a un chapitre, par exemple, où avoir rencontré Duplessis, etc. Ça, c'est elle qui l'a raconté à une de mes cousines qui me l'a raconté. Donc, j'ai repris le récit d'Almanda elle-même à sa petite fille. Mais il y a eu un livre qui a été écrit par les éditions JCL, où il faisait genre, c'était un livre témoignage avec un ancien curé, un ancien notaire, une ancienne autochtone. L'ancienne autochtone, c'était Anne-Marie, la sœur de ma grand-mère, qui a raconté beaucoup d'éléments de leur vie, qui m'a servi quand même de structure. Elle racontait elle-même, par exemple, comment Almanda a rencontré Thomas, qu'est-ce qu'elle a dit à ses parents quand elle leur a dit qu'elle partait avec lui. Il y a plusieurs éléments comme ça qui étaient basés sur ça, qui sont des témoignages qui ont été sauvés donc par écrit. Alors, tout ce qui est la part de quand ils se rencontrent, comment ils vivaient, ça, c'était, c'est basé sur ce qu'on en sait. Mais souvent, j'étais obligé de boucher des trous. Par exemple, quand elle a rencontré sa famille, tout ça, ça j'ai des récits fiables. Mais quand elle est partie la première fois dans le Nord avec Thomas, elle manda, je ne sais pas comment ça s'est passé. Donc, toute la remontée de la rivière, elle est fictive, mais les personnages sont basés sur le caractère qu'avaient vraiment les personnages.
Mais
donc,
tous les faits que tu comptes, ouais, toutes les anecdotes qui sont dans le livre, sont toutes comptées avec une émotion très grande. Une émotion, parce que c'est une femme qui parle, des émotions de type féminin. Comment tu t'es embarqué là-dedans pour le faire? T'as eu de la difficulté ou pas?
Ben non. J'avais déjà écrit une nouvelle qui s'appelait « Où es-tu? » dans le recueil « Amun », où ça se parlait au jeu, puis c'était une femme qui parlait. Je sais pas, quand j'écris, moi, je me mets dans l'état d'esprit d'eux. Et j'étais Almanda quand elle écrivait. Je pense que j'étais capable de me mettre dans l'état d'esprit d'une, mettons, quand elle raconte Thomas, je suis capable de me mettre, comment on est quand on a 15 ans, qu'on est enflammé, qu'on rencontre quelqu'un, qu'on voit juste le possible et non pas les obstacles. Tu sais, je me souviens de moi quand j'étais jeune à 15 ans, comment je voyais les choses. Est-ce qu'un garçon ou une fille les voit différemment? Pas tant que ça, en réalité. Oui, quand on, il y a une tendresse qui peut être exprimée différemment et tout ça. Mais je sais pas. Honnêtement, c'est pas la portion qui, pour moi, était la plus difficile. Je dirais, j'essayais de me mettre dans l'état d'esprit comment était Almanda à différents moments de sa vie. Comment elle était jeune, comment elle était plus vieille, dans quel état d'esprit elle est. Et moi, j'essaie d'écrire le plus simplement possible pour que les gens vraiment ressentent ce que les personnages vivent.
On vive un peu de musique, puis on vient après.
Thank you.
Elle s'appelle Béatrice Deer. Deer comme dans chevreuil.
Exactement.
Ben, une autochtone. Une Inuk, en fait, de Kwaktak. Tu connais ça, toi?
Non.
Moi non plus.
Je suis jamais allé, moi, dans le Grand Nord. Puis j'ai beaucoup d'admiration pour la culture Inuk. Les chants de gorge qu'on entendait, enfin, je trouve ça extraordinaire.
C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. Michel Jean avec nous aujourd'hui, évidemment. Pour ce qu'il est, mais aussi pour ce qu'il a écrit Coco, qui est un roman qui a tant de succès, mais enfin. Hey, si on en parlait un peu, tant de succès comme ça, à beau mentir qu'il vient de loin, le roman n'a pas plus décollé qu'il fallait à sa publication, mais là, par la France, tout à coup, c'est correct.
Oui, parce qu'en fait, le roman est sorti l'année passée. Et il n'y a pas eu tant de couverture médiatique que ça. Je veux dire, il y a eu le Journal de Montréal qui en a parlé, il y a eu quelques trucs, mais je veux dire, la presse, la plupart des médias n'ont pas les libraires, le magazine Les Libraires, Lettres québécoises, ça, personne n'en a vraiment parlé ou fait une critique. Et c'est vraiment le bouche-à-oreille qui a fait son chemin. Je veux dire, le livre, je pense que j'ai été 2 semaines au palmarès Renaud-Bré, mais pas super haut quand il est sorti l'année passée. Moi, j'étais content parce que, bon, j'étais quand même... Mais le livre a continué de trouver des lecteurs. Puis un an plus tard, souvent, votre livre va avoir du succès, puis le livre sort à l'automne, puis après Noël, il est sorti des librairies, puis le livre est mort. Ça, c'est pour 90%, 95% des romans. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais moi, un an plus tard, on venait de réimprimer encore 1000 exemplaires. On était rendu à 6000 imprimés, je pense. Il y en avait dans les Renaud-Bré encore. Je veux dire, le livre était comme un livre de fond qu'on appelle, c'est-à-dire que les libraires gardent. Alors, c'est pas un livre sur lequel tout le monde se jette, mais c'est un livre qui vit, qui est encore vivant. Tu sais, puis ça, j'étais content de ça.
Dans ton roman, les descriptions de la nature sont particulièrement émouvantes, je dirais même sensuelles. Mmh. Est-ce que toi, tu as un rapport de ce type-là avec la nature pour pouvoir écrire ça?
Oui, moi, je veux dire, si je pouvais, là, j'ai longtemps habité au Mont-Sainte-Anne, où on était dans le bois, au pied d'une montagne. Si je pouvais, c'est là que j'habiterais encore, parce que j'aime faire du vélo de montagne, j'aime faire de la course en montagne, j'aime aller dans le bois, j'ai 3 chiens, je vais dans le bois avec mes chiens. Je suis quelqu'un d'urbain qui aime la ville et tout ça, mais moi, je veux dire, la montagne, le bois, les rivières, tout ça, même si je ne suis pas un chasseur ou un pêcheur, je suis quelqu'un qui adore la forêt, la nature et tout ça. J'aurais pu être un chasseur, un pêcheur. Jeune, j'aimais ça, puis c'était pas dans ma famille, il n'y en avait pas, etc. Je pêchais avec mon grand-père quand j'étais jeune, puis c'était ce que je préférais au monde et tout ça. Puis la vie t'amène ailleurs, mais je suis quelqu'un pour qui la nature, je suis proche. Et la nature est importante dans Kokoum parce que c'est un personnage. C'est le territoire, c'est l'environnement. Alors, c'est pour ça que il n'y a pas de longues descriptions des paysages. C'est souvent court, puis c'est souvent assez comme des impressions, des odeurs, 1-2 lignes. C'est rarement, il y a rarement genre un paragraphe au complet pour décrire un environnement.
On va donner un exemple. Okay. Ça commence comme ça. C'est tout à fait, c'est le premier paysage. Une mer au milieu des arbres. De l'eau à perte de vue, grise ou bleue, selon les humeurs du ciel, traversée de courants glacés. Ce lac est à la fois beau et effrayant. Démesuré. Et la vie y est aussi fragile qu'ardente. Écoute, t'as 4 lignes et 1/3, là. Puis tout est là.
En fait, ce que j'essaie de décrire dans le lac, bon, le lac, pour moi, c'est spécial, là. C'est le lac Saint-Jean qu'on appelle, nous, Pequakami. Mais plus que la description du lac, c'est ce qu'on ressent quand on est devant le lac qui compte pour moi. Comment on est devant cette immensité-là au milieu d'une plaine entourée d'arbres. Et souvent, quand je vais décrire les lieux, c'est ce qu'on ressent devant les lieux. Alors, évidemment, il faut que tu décrives un peu, il faut que tu dises que c'est un lac, là, tu sais. Mais il reste que ce que je veux qu'on sente ce que Almanda est devant le lac, puis qu'elle ressent quand elle est devant ce lac-là. C'est ça qui, pour moi, je vais essayer, au plan de style, si on veut, que je vais essayer de faire décrire l'émotion qu'on a devant les lieux et ce que les lieux provoque en moi. Parce que si je vous décris très en détail un lieu, que vous allez le voir, vous allez l'imaginer, ça ne veut pas dire que vous allez réagir à ça.
On ne sera pas ému pour autant. Non.
Mais ce que je veux, moi, c'est que la personne ressente ce que ça inspire. Ça demande un autre genre de le présenter.
Tu parlais de ton rapport à la nature, tu as parlé de vélo de montagne et de course en montagne, mais le côté contemplatif, c'était comme ça aussi? Parce que tu disais que tu étais calme, tes origines autochtones te permettent d'être calme.
Ouais.
Tu contemples?
Oui, quand même, ouais. Je suis capable, je suis un lecteur.
Tu peux descendre de ton vélo de temps en temps?
Oui, mais je suis un lecteur, moi. Hein, fait que je suis capable de plonger un après-midi dans un livre, je suis capable de m'installer dans un lieu pour juste baigner dans le lieu puis en profiter. Je suis capable de juste être là assez facilement. Là. Tu sais,
quand
tu as
terminé,
quand tu as terminé
l'écriture de Kokoum, j'ai l'impression que tu t'es senti de façon particulière attaché à sa communauté. Plus que tes autres livres, il me semble.
Oui, ben...
À cause du lien familial, peut-être, je sais pas.
Oui, mais c'est sûr que Kokoum, c'est un livre où je sentais le poids de raconter l'histoire de la communauté. T'sais, c'était comme... J'ai hésité à l'écrire, le livre, au début, parce que me disais, bon, est-ce que toi, Michel Jean, t'as la légitimité pour commencer à parler au nom de la communauté? T'sais? Ça, j'avais cette crainte-là. Puis, ironiquement, c'est un jour, je racontais ce livre-là que je voulais écrire. Je parlais de ma grand-mère, d'Almanda, avec Perrine Leblanc, qui est une auteure puis une amie. Puis on était, je me souviens, dans un salon de thé. Puis... J'ai raconté ça, puis à un moment donné, elle a dit, ben, si tu l'écris pas, moi, je vais l'écrire ce soir-là, là, c'est trop bon. Donc, qu'est-ce que je vais le faire? C'est comme un peu qu'il m'a donné le dernier coup de pied, je dis, OK, je vais le faire. J'avais comme un peu le vertige, quand même, parce que mon objectif, c'était pas de raconter la vie d'Almanda, puis de ma famille. Mon objectif, c'était de raconter la sédentarisation forcée, comment ça s'est fait, puis que les gens puissent comprendre, après ça, quelles sont les blessures, et ces blessures-là qui expliquent beaucoup des problèmes qu'on voit aujourd'hui dans les communautés. Les gens pensent souvent que les Autochtones vivent dans les réserves. Oui, ont toujours vécu là. Non. Je veux dire, moi, ma grand-mère est née dans le bois. Moi, je suis né à l'hôpital d'Alma. Je veux dire, ça s'est passé dans cette période-là. Là. Ça fait pas, c'est pas à l'époque des cow-boys. Là. C'est arrivé, tu sais, dans les 50, 60 dernières années, 100, 75 dernières années. Et donc, c'est arrivé à cette période-là. Je l'ai raconté, ça. Je me suis servi, en réalité, l'histoire d'Almanda, parce que les personnages... Almanda, mais aussi, tu sais, les sœurs à Thomas. Thomas, ils sont tous des personnages qui étaient très riches, puis vrais, authentiques, puis qui permettaient de comprendre à travers leur vie à eux autres. Ils étaient un peu, ils ont le vecteur un peu qui me permettait de raconter cette histoire-là.
As-tu eu des réactions des gens concernés?
Ben oui, les gens, les Inuits sont contents. Je veux dire, quand on a lancé le livre, les gens étaient contents qu'on le lise. Je veux dire, à chaque fois que j'ai écrit sur les Autochtones, j'ai eu des Autochtones qui m'ont remercié parce que je l'écris d'abord pour eux autres. C'est-à-dire que je veux que les gens comprennent. Je l'écris d'abord pour les Autochtones parce que l'histoire qui est là-dedans, qui raconte l'histoire des Autochtones, comment on a été dépossédés, forcés à rester dans des réserves et comment les problèmes sociaux sont apparus, on ne l'apprend pas dans les livres d'histoire. Elle est nulle part. Si nous, on ne l'écrit pas, l'histoire, qui va l'écrire? Alors, je l'écris d'abord pour que les gens connaissent leur histoire, puis après ça, pour que les Autochtones la connaissent. Quand j'ai écrit Le vent parle encore, qui est le roman que j'ai écrit sur les pensionnats autochtones, j'ai une jeune fille de 18 ans de Ouachat qui m'a écrit. Elle me remerciait d'avoir écrit le livre. Elle dit, moi, elle dit, j'ai jamais aimé les expansionnaires. On la comprend parce que souvent, les expansionnaires, alcool, drogue, violence, etc. Ça, ce sont les conséquences des pensionnaires. Les jeunes qui sont passés par là, ils sont sortis souvent blessés. Pas tous, mais souvent. Fait qu'elle dit, moi, les expansionnaires, je les ai jamais aimés, mais je savais pas pourquoi. Là, maintenant, je comprends pourquoi ils sont comme ça. Je vous remercie.
C'est important de faire cet inventaire-là. C'est une sorte d'inventaire sociologique que tu fais. Tu disais qu'en décrivant pourquoi il y a des problèmes de maintenant, ce livre-là monte à l'origine sur la sédentarisation. Maintenant, tu les vois comment, les problèmes actuels? Parce que tu dois... Qu'est-ce qui te choque actuellement? Je ne parle pas de la mort qu'on connaît à Joliette, là, mais en dehors de ça, est-ce que tu es un militant pour la cause autochtone?
Non, je ne suis pas militant.
Non?
Je suis un journaliste. Je gagne ma vie comme étant journaliste, donc je peux pas être militant et journaliste.
OK, d'accord.
Mais puis je me vois pas comme... J'ai pas un tempérament militant, mais je me vois un peu comme dans mon travail de journaliste. Là. Moi, je vois que je suis la personne qui rentre dans la pièce, il fait noir, puis j'ouvre la lumière. Là, les gens s'aperçoivent qu'il y a des coquerelles. Alors, les gens vont dire, c'est pas moi qui vais tuer les coquerelles. Soit vous tuez les coquerelles, soit vous refermez la lumière.
Vous démontrez.
Il y a deux manières de débarrasser des coquerelles. Je vais laisser les gens décider de la façon. Moi, je vous l'ai montré que les coquerelles sont là. Je vois mon travail un peu comme ça, même comme écrivain. Cela dit, c'est sûr que je regarde les choses, comment elles se passent aujourd'hui. Puis si on me demande c'est quoi la solution, j'ai pas la réponse à ça. Mais je sais une chose, par contre, c'est que ça peut pas rester comme ça. Moi, je le constate, là, à Amon, le recueil de nouvelles que j'ai dirigé et traduit en allemand, je viens de faire une entrevue avec un magazine allemand. Là. Puis, ils m'ont posé plein de questions sur le premier ministre Trudeau, sur le premier ministre Legault, les politiques du Canada. Puis, les Européens s'intéressent beaucoup à ça. Pas comme on pense avec l'intérêt folklorique.
Non,
ouais, non. La question de l'autodétermination des peuples, pour eux autres, c'est important. Ils regardent ça comme... De la même manière qu'ils s'étonnent qu'on coupe la forêt amazonienne, ils s'étonnent qu'on coupe la forêt boréale ici. Nous, on trouve ça normal parce que ça a toujours été comme ça. Eux autres, ils regardent ça de l'extérieur, ils disent, c'est weird quand même. Alors, il va y avoir une pression. Si on ne veut pas être la Rhodésie un peu ou être considéré comme tel un jour, il faudra que ces problèmes-là se règlent. Puis moi, je pense que ça va finir par se régler à partir du moment où on va comprendre que les Autochtones ont besoin de profiter, de contrôler aussi une partie des ressources et des profits qui sont faits par l'exploitation des ressources sur leur territoire.
T'as de l'espoir quand on s'en va? Je pense à la table permanente et tout ça. Là.
Moi, je pense que j'ai de l'espoir parce que la pression est là. Les gens, le public est là. Les jeunes s'intéressent beaucoup à ces questions-là. Je pense que le statu quo est impensable à moyen et à long terme. Je pense que ça va bouger, mais peut-être pas de notre vivant à nous, par contre.
On revient tout à l'heure ensemble.
Écoutez, Koué, bonjour.
Avec Michel Jean aujourd'hui avec nous pour parler beaucoup de son roman Cocoum, roman primé, très très beau roman sur toute la réalité autochtone. Michel, on s'aperçoit dans le roman, et tu le disais tout à l'heure, là, c'est un roman sur la sédentarisation beaucoup. On se demande si ces Autochtones-là doivent apprivoiser la modernité, l'ignorer, la subir, on ne sait pas trop. C'est beaucoup ces problèmes-là qui sont dans le livre, là. Le rapport à la modernité.
Oui, mais ben, clairement, on s'entend, là, aujourd'hui, la question ne se pose pas. On vit dans le monde dans lequel on est, puis personne ne pense qu'on va revenir à ce que c'était. Mais je voulais quand même montrer que ça n'a pas été facile pour des gens qui étaient habitués à vivre d'une manière... Tu sais, par exemple... chez nous, la famille, c'était quoi la vie? Ils passaient l'été à Machouillage, qui existe encore aujourd'hui, qui est la réserve. C'était le lieu de rassemblement d'été. Les familles se retrouvaient là, c'était la période des mariages. Tu sais, les gens vivaient sur des communautés, des territoires isolés, là, quand même. Alors, c'était la période où les gens se retrouvaient, puis c'était le party, c'était le fun. Mais à la fin du mois d'août, chez nous, on partait, on contournait le lac, ils remontaient jusqu'à la tête du lac Péribonka, qui était à un mois de voyage. Parce qu'il y a des montagnes, il y a des partages. Il y a, je pense, 3-4 barrages hydroélectriques sur la rivière maintenant. Donc, tu sais, c'était compliqué. Et là, ils se tentaient là pour l'hiver. Comme moi, ma famille, c'était les passes dangereuses qui étaient là, l'endroit où on était. Puis après ça, les hommes, pendant l'hiver, allaient chasser jusqu'à la toundra, là, je veux dire. Puis ils revenaient. Puis ils amassaient des pots pendant tout l'hiver. Puis au mois de mars, au printemps, au dégel, ils redescendaient la rivière puis ils revenaient. C'est ça qui était le cycle de la vie. Mais du jour au lendemain, quand la coupe forestière a commencé puis que la rivière a été utilisée pour faire de la drave, il était plus possible de monter sur le territoire, puis il n'y avait plus de forêt. On coupait les arbres. Alors, sans avoir le choix, ils sont retrouvés obligés de vivre à l'année à Machtouillache, ce qu'ils n'avaient jamais fait de leur existence. Il n'y avait rien à faire. Il n'y avait pas assez de gibier autour pour faire vivre les familles. Fait qu'on, le gouvernement a donné des allocations. Tu sais, les gens, aujourd'hui, disent, hey, les Indiens se font vivre. Mais ce n'était pas leur choix. Ils sont retrouvés là. À ce que je cherche, il n'y a pas d'usine dans ce coin-là pour les gens. Puis des gens qui aimaient un autre vie, qui se retrouvaient là, c'est pas automatique pour eux de commencer à se recycler en soudeur, en pompier, en ci, en ça. Là. Je veux dire, à un moment donné, il y a un choc pour ces gens-là. Comme moi, dans ma famille, les hommes ont servi comme guide. Tu sais, c'était quand même dégueulasse. Là. Ils étaient obligés de guider les touristes américains qui venaient chasser sur leur territoire. Tu sais, c'était la seule manière pour eux autres de profiter de la forêt. Je veux dire, tu sais, après ça, tu te demandes pourquoi ces gens-là sont blessés. Ben, il me semble que c'est normal, là, tu sais.
Il reste des traces de
ben
ça.
Ben oui, c'est ça, tu sais, ça fait mal. Et ils retournaient sur leur territoire de temps en temps, puis il y avait des chalets, puis les gens disaient « Qu'est-ce que tu fais là? T'étais chez nous. » Tu sais, c'est sûr que la vie moderne, c'était pas quelque chose qui était souhaité. Les gens étaient bien dans la vie qu'il y avait. Alors, ça leur a été imposé, puis ça a été difficile au début. Bon, là, maintenant, on est en 2020, il y a personne qui pense retourner à vivre comme avant. Mais la notion de territoire et la notion de lien entre l'Innu et son territoire, ça reste présent. Comparativement, par exemple, aux Autochtones qui sont dans l'Ouest canadien ou dans l'Ouest américain, où souvent ils ont quitté depuis longtemps le territoire, nous autres, ici, c'est récent qu'on a été coupés du territoire, puis le territoire est encore là, on le voit encore, c'est encore là, c'est là, là. Tu sais, c'est pas comme quelque chose qu'on vit depuis 200 ans en ville, c'est encore là, fait que ça reste encore présent. Et dans la mentalité des Innus, tout tourne autour du territoire. Mitassinan, même la langue est différente quand elle parlait sur le territoire, quand elle parlait en ville, parce que c'est une langue qui est adaptée au territoire.
Ah bon?
Ouais. C'est très différent, puis c'est pour ça qu'on dit souvent que c'est plus facile d'apprendre l'Innu quand tu es sur le territoire que quand tu es en ville. Déjà que sur le territoire, c'est difficile aussi, parce que ce que m'explique, mettons, Joséphine Bacou me disait, quand tu es sur le territoire, on décrit des choses, tout ce qu'on dit décrit à rapport avec quelque chose autour de toi. Tandis que quand tu l'apprends, c'est comme une langue avec des mots, il faut que tu apprennes, que tu retiennes.
Ben, ouais, c'est ça.
Ça, tu l'incarnes. La langue est faite en fonction du territoire, tu l'incarnes. Mais alors la modernité, il n'y a personne qui pense revenir en arrière. Mais il n'y a personne non plus chez les Autochtones qui veut renoncer complètement.
Ben, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce qu'on peut garder? Qu'est-ce que ces gens-là peuvent garder de l'héritage dans un contexte contemporain? Là?
Ben, à Mastoyache, les jeunes, par exemple, quand c'est l'automne, ben, y a une période où ils s'en vont en chasse avec les familles. Le calendrier scolaire n'est pas fait pour les Autochtones comme il est fait pour les Blancs avec les vacances tout l'été. Pis ça. Je veux dire, si tu vas à Ouachat, c'est pareil, où il y a des communautés autochtones, dans la période où les gens vont chasser, ben, les enfants, ils vont, puis on s'adapte. Tout est adapté en fonction d'un mode de vie puis d'une façon de voir les choses qui est différente. Les Autochtones, eux autres, ils voient pas la... Tu sais, souvent, par exemple, la période de chasse est pas quelques mois par année. La raison pour laquelle on limite la chasse là, au Québec, c'est parce qu'il y a trop de chasseurs. Tu sais, parce que sinon, il y aurait plus de ressources. Mais nous, on se dit, ça fait 15 000 ans qu'on chasse... le caribou puis le chevreuil.
À tout moment de l'année.
Oui, à tout moment de l'année. Puis jamais disparu, c'est quand les Blancs sont arrivés. Puis en gang, puis en avion. Puis que là, ça a commencé à menacer. Alors, nous, on va continuer de le chasser comme on veut. C'est vous autres qui allez vous restreindre. C'est pas vrai qu'on va, nous, moins chasser parce que vous, ça fait fonctionner les pourvoiries. Pour les Autochtones, c'est comme ça que les choses sont vues. Puis si tu mets à leur place, ça, tu, ils ont raison, dans le fond, là, tu sais. Alors...
Mais il y a une chose, il faut que tu me dises.
Ouais.
Tu affirmes dans ton roman... que de l'outarde, c'est très bon à manger.
Ah oui, c'est super bon de l'outarde.
On m'a toujours dit que c'était pas mangeable.
Ben non, c'est vraiment bon de l'outarde. Moi, j'en ai mangé souvent.
Es-tu sûr de ça?
Oh, oui, sûr. Ce qui est dur à manger, c'est du castor.
Ouais.
Moi, on m'a dit que moi, j'en ai mangé une fois dans ma vie du castor, puis j'ai trouvé ça vraiment bon. C'est un Innu de Mastoyache qui était notre voisin quand j'habitais à Sorel. On appelait le chef, d'ailleurs, Silvio Neptun. Puis... Il l'avait fait, puis il m'avait expliqué que les gens n'aiment pas le castor parce que c'est gras, mais qu'en réalité, le castor, faut que tu le laisses dégraisser longtemps dans la fumée, boucaner, etc., pendant très longtemps, puis qu'une fois que tu as brûlé la boucane, de brûler le gras, c'est super bon. Moi, j'en ai mangé une fois, je trouve vraiment bon, mais plein de gens m'ont dit c'est dégueulasse à manger du castor.
J'en ai mangé, mais c'est un peu préparé par un chef français, mais c'est impeccable. Il avait mariné longtemps, je sais pas. C'est vraiment très bon. Mais l'outarde, on me disait que c'était bon.
Non, c'est très bon, l'outarde.
Mais moi, comme blanc, je peux pas aller me chercher une outarde.
Ben oui, la chasse à l'outarde, ça existe. Ben oui, il y a même des...
saison.
En saison, ben oui. Puis, je veux dire, on vient de finir la période de la chasse. Moi, j'habite à côté de la rivière Richelieu. Le soleil se lève, on entend les gens tirer autour. J'ai grandi à Sorel, où est-ce qu'on entendait les gens tirer aussi?
On est calé sur les clubs de golf, ils sont tous là.
C'est ça aussi.
je prends un extrait de ton livre pour te poser une autre question, Michel. Qu'aurait été ma vie si un jeune chasseur aux yeux bridés n'était pas passé par là, attiré par un vol d'outarde? Ce qu'il y a là-dedans, c'est la part du hasard, mm-hmm. dans le bonheur, dans la rencontre amoureuse.
Ouais.
Et il semble bien, ce que tu décris, c'est que chez les Autochtones, ce hasard-là, on en fait presque un personnage, on s'en sert dans sa vie.
Ben, c'est parce qu'on a peu de contrôle sur les choses. Et quand on vit dans la nature, comme ça, c'est encore pire. Dans notre monde d'aujourd'hui, le hasard existe.
Ouais.
Mais il y a beaucoup de choses qui sont prévisibles. On travaille de 9 à 5, ces choses-là. L'autobus est toujours à la même heure. Le train, l'émission de TV est à la même heure, etc. Quand on vit dans la nature, le hasard, oui, le soleil s'élève à la même heure, tout ça. Mais il y a beaucoup de choses d'impondérables. La chasse va être bonne, pas bonne. Les oiseaux passent, les oiseaux passent pas. Il y a du poisson, il n'y a pas de poisson. Ça fait en sorte que toute la notion du temps, par exemple, n'est pas la même pour les Autochtones.
Mais j'ai l'impression que chez les Blancs, on craint le hasard. Tandis que chez les Autochtones, on s'en sert.
Sans doute, peut-être, oui. J'ai jamais vu comme ça, mais je pense que oui. C'est la notion de temps qui fait qu'on va être plus porté à attendre, à laisser aller le hasard, parce que chez les Autochtones, la notion du temps d'attendre, ça dérange pas d'attendre. Fait que les choses peuvent arriver. Tu sais, l'expression « Indian time », là, c'est pas une blague. Là. C'est vrai que moi, j'écris un roman, quand je fais, par exemple, des collectifs avec des auteurs autochtones, on a une date de tombée. Je pense jamais que tous les textes vont être rentrés à la date de tombée. Là. Je comprends que c'est comme ça. Là. Tu sais, faut accepter que la mentalité est comme ça. Et je le dis toujours aux gens, c'est comme un running gag. Là. Mais il y a ça. Puis il y a aussi le fait que voulez-vous, les gens... je pense que les Autochtones sont peut-être un peu plus fatalistes que les Blancs. Ouais.
Peut-être. Mais hein. Ben, il y a une question de hasard, mais il y a une façon aussi de s'abandonner à la nature, parce que tu peux pas décider quand il va pleuvoir ou qu'il va neiger ou qu'il va venter. Alors, il faut que tu t'y fasses, c'est tout.
C'est parce que la différence entre un Blanc et un Autochtone, c'est que nous... Ben, les Blancs, dans la culture occidentale, l'homme traîne, la femme, l'humain traîne, est en haut de la pyramide de la vie. Et c'est lui qui dicte ses volontés au monde. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça a toujours fonctionné comme ça. On coupe les forêts, on en a besoin. On fait, c'est l'esprit humain. On commence à se rendre compte que peut-être que ça va trop loin là, avec le réchauffement climatique et à se poser la question peut-être que c'est pas... C'est que le progrès, depuis le début, nous, le progrès depuis les Romains, là, c'est l'évolution de l'humanité, c'est on suit le progrès, on avance. Là, c'est comme... Là, on se demande, ouais, où est-ce que ça va le progrès? Chez les Autochtones, l'humain est un élément dans un système social et pas supérieur aux autres. Par exemple, l'ours est situé plus haut dans la hiérarchie de la forêt que l'humain. Quand on va tuer le chasseur qui va tuer un orignal, c'est parce que l'orignal va avoir accepté de son sacrifice pour permettre à l'autre de vivre. En contrepartie, le chasseur ne va jamais tuer plus que ce dont il a besoin. Tu n'auras pas deux s'il y a besoin. Si tu as besoin d'un, t'en tues un. Et ne gaspillera rien de ce qui a été donné. Puis il va mettre, mettons, par exemple, suspendre les eaux en hommage à l'orignal autour du campement. Je vois ça encore à Meshtoyash quand j'y vais. Alors, c'est pas une croyance à gogo. C'est juste une question de respect de comment on voit. Il y a comme un partage. Et quand il va avoir tué, le chasseur va avoir remercié l'humain, le chasseur va remercier finalement la bête de son sacrifice. Alors, tu es partie intégrante d'un groupe hiérarchique dans lequel tu n'es pas plus haut, important, ou de l'autre côté, l'humain est en haut, intelligent, et les animaux en bas sont là pour son bon vouloir.
Michel, on vit une période difficile, changement climatique, la COVID et tout ce qu'on veut. C'est pas facile de ce que toute l'humanité finalement vit. Je te cite une de tes phrases. « La peur tétanise, la crainte incite à la sagesse. » Ça aussi, il devait l'apprendre. Hein?
Ouais, parce que... Oui, mais en fait, parce que quand on a peur, on est comme... mais la crainte, ça incite à la prudence. Craindre, des fois, t'es mieux de marcher lentement que de courir. Mais quand t'as peur de quelque chose, moi, je me souviens une journée... J'étais au Mont-Saint-Anne, justement, j'étais avec mon chien, j'avais un gros labrador. Puis, je me suis toujours demandé qu'est-ce que je ferais, mon labrador ferait si je croisais un ours, tu sais. C'était un soir, j'avais descendu la montagne en vélo, je m'étais fait prendre par la noirceur. Puis la piste a remonté un peu vers la fin avant de redescendre à la fin, j'étais presque rendu. Puis à un moment donné, je vois devant moi, je pensais que c'était mon chien, non, c'était comme maman ours et bébé ours. Puis il faisait noir. J'étais plus capable d'être sur mon vélo, je marchais à côté de mon vélo parce que dans le bois, quand il fait noir, il fait noir. Là, il était même pas 100 mètres devant moi, là, peut-être 50 mètres, 100 pieds devant moi, peut-être à peu près. Puis là, la maman et le bébé étaient dans le sentier. Là, moi, j'ai baissé la tête, j'ai reculé, j'ai redescendu jusque le sentier remontait jusqu'en haut, mais là, je ne pouvais pas monter en montagne en noirceur. J'ai attendu comme une demi-heure. Là, je les entendais, eux autres, ils bougeaient pas loin. Puis à un moment donné, ils se sont déplacés. Puis ils s'en venaient directement sur moi, là, tu sais. Là, j'étais là, bon, okay. Là, j'entendais dans le bois, poutoum, poutoum. Là, je dis, qu'est-ce que je fais? Là, j'avais peur, là, parce que j'ai dit, bon. Fait que là, j'ai pris mon vélo, mon chien par le collet. Puis là, j'ai dit, si t'es pas agressif avec l'ours, il sera pas méchant avec toi. C'était pas une menace. Fait que je suis parti. J'ai croisé l'ours, puis le bébé ours, on s'est croisés. Là. Elle était dans le bois, moi j'étais dans le sentier. On était à 20 pieds peut-être. Là. Je la regardais pas, je regardais la tête, mais je la voyais. Elle me regardait, le bébé continuait. Puis j'ai continué mon chemin. J'avais la crainte, mais je me suis pas laissé paralyser par la peur. Je comprenais que j'agissais logiquement. Il y avait une crainte, il y avait un risque, mais Un animal ne t'attaquera pas pour rien comme ça, c'était correct. Alors, je n'ai pas laissé la peur me tétaniser, mais ma crainte faisait que je tenais mon chien, je tenais mon vélo, je regardais par terre.
Son roman s'appelle Cocoum, lui s'appelle Michel Jean. Merci, Michel.
Merci, Robert, c'est un plaisir. Là.
Sisters of sunlight, sisters of earth, brothers of nature, brothers of old, brothers of legends, like story untold. My uncle, laid to rest, a gun and a sword, buried the hatchet, buried the stake, about to each other, peace to make. What I am, got the guitar and the drum. That's where I come from. Spirits of the sea, spirits of the sun, worthy of the shadow. Come shine on. Son of the sun, son of the bird, soul of blind, children of the world, daughters of starlight, daughters of moon, sisters of sun. Brothers of nature, brothers of all, brothers of legend, like story untold.
Kashtin, the son of the sun, le fils du soleil. Elle est avec nous, ou au téléphone, Christine Bérubé-Martin, vous êtes là?
Oui, effectivement, je suis là.
Où est-ce qu'il y a votre téléphone actuellement? Là? Vous êtes où, là?
Ben là, il est sur mon oreille.
Oui, non, mais géographiquement, là, on se parle d'où?
Exactement, au sud-ouest de l'Alberta, en ce moment, j'arrive pas... Beaver Mines, où je m'en vais trouver une amie qui vit là, qui fait de la patrouille dans les montagnes là-bas, puis je m'en vais la trouver pour vivre les expériences de grosses montagnes pour la première fois l'hiver. Ah.
Vous avez la passion alors de la randonnée extrêmement sérieuse.
ouais, ben je pense que j'ai vraiment une grosse passion pour la montagne en tant que telle, donc. Je pense que toutes les raisons sont des bons prétextes pour être en montagne, là, peu importe comment, si c'est en randonnée ou en ski ou un vélo de montagne ou en course. Ou,
Christine, ou est-ce que vous savez pourquoi? D'où ça vient cette passion-là?
Pour vrai, je sais pas exactement d'où ça vient, mais ça, je crois que ça a toujours été comme en moi, mais c'est une découverte depuis peut-être une dizaine d'années. Moi, dans le fond, avant, j'étais comme vraiment sédentaire. Je faisais pas d'activité physique, puis j'avais un peu des mauvaises habitudes de vie, là, dans le sens que je consommais un peu d'alcool. Puis, tu sais, j'étais plus, comme je dis, là, sédentaire. Puis un jour, je me suis comme réveillée, puis j'ai décidé de comme prendre ma vie en main, puis je voulais je voulais être un peu plus active, puis j'ai commencé avec la course à pied, puis éventuellement, j'ai commencé à m'en faire en montagne, puis c'est vraiment la montagne qui m'interpelle le plus dans tout ça, parce que c'est ça, c'est comme... Il y a des hauts et des bas dans les montagnes, fait que c'est le fun. Je trouve que c'est pas tout le temps... c'est pas redondant.
Un peu comme la vie, hein?
Ouais, exact. Je relate tout le temps avec les montagnes, la vie, parce que...
On parle de Christine Bérubé-Martin aujourd'hui parce que c'est ça fait partie d'un film, une des vedettes d'un film qui va sortir très bientôt sur les plateformes de Cinéma Beaubien, etc., d'autres cinémas, on le dira à la fin. Un film qui s'appelle Traversée, qui a été réalisé par Caroline Côté et Florence Pelletier, où on voit donc des jeunes femmes se promener, faire une randonnée difficile dans un territoire difficile. Je vais vous laisser m'expliquer pourquoi, mais j'ai une question préalable à vous demander. Est-ce que vous avez fait cette randonnée pour faire un film ou si on a fait un film sur une randonnée que vous vous apprêtiez à faire de toute façon?
l'idée du documentaire, c'est sûr que c'était déjà... on le savait là, qu'on allait faire un documentaire, mais à la base, je pense que personnellement, c'était pas vraiment pour faire le film en tant que tel. C'était vraiment pour vivre l'expérience de aller dans le Grand Nord parce que ça a toujours été... quelque chose qui m'interpellait, je veux pas par rapport à mes racines aussi autochtones, Mi'kmaq, les Premières Nations, les Inuits. Je sais que dans le Grand Nord, ben c'est du terrain qui est extrêmement navigué par eux. Puis j'avais vraiment le goût de vivre ce genre d'expérience-là depuis quand même assez longtemps. Mais quand j'ai vu cette opportunité-là, ben je me suis dit c'est une opportunité en or de pouvoir aller justement explorer du terrain comme on peut se dire quasi vierge. Puis, écoutez, c'est sûr que ça a été un voyage extrêmement, je pense, révélateur. Les trois, je crois qu'on a tous fait un voyage intérieur aussi à travers de tout ça, parce que c'était des longues, longues périodes à marcher. Puis,
vous êtes sorti, vous, de cette expérience-là, documentaire, mais les documentaires, vous le tourniez pas, vous le marchiez, parfois difficilement. Ouais. Vous en êtes sorti comment? Indemne, changé?
Changé d'un certain sens, parce que j'ai compris dans ce genre d'expédition-là, parce que j'ai déjà participé à plusieurs événements sportifs avant, mais c'était comme plus en mode compétition, dont des raids, comme des courses en vélo de montagne, puis des courses à pied. Mais ce genre d'expédition-là, ça m'a comme... on dirait que ça m'a remis les deux pieds sur terre beaucoup plus, puis j'ai réalisé que, tu sais, chaque personne a ses capacités, puis que... Ensemble, on peut tellement devenir fort quand on réussit à aller chercher toutes les forces de chacun et chacune. Moi, je trouvais que c'était difficile pour moi au début de couler down, je veux dire, en guillemets, parce que j'ai tout le temps été une fille comme quand je suis dans l'action, puis il faut que ça bouge, il faut que ça avance, puis il faut que ça opère. Puis comme là, c'était comme plus lent, c'était plus... c'était en harmonie à la fin. Là, ça a devenu comme...
Et vous deviez tenir compte du problème des autres aussi, pas uniquement les vôtres.
Ah, exactement. Tout à fait. Je m'enlignais sur un peu sur cet aspect-là parce que, tu sais, oui, chacune, on a chacun nos petits problèmes, nos petits tracas, nos douleurs aussi, nos douleurs intérieures qu'on traînait, tu sais, sur nos épaules, tu sais, comme... Mais moi, personnellement, je suis vraiment une fille du moment présent. Donc, je suis... Comment je peux dire ça? Je vis le moment, puis j'embrace. Tu sais, je suis vraiment comme souvent reconnaissante de ce que je peux vivre. Puis, tu sais, oui, quand je vais avoir comme des périodes où ça drop un peu le moral, ben je fais juste de regarder qu'est-ce qui se passe autour de moi, puis je réalise à quel point que je peux être chanceuse. Puis... au contraire, d'autres gens pouvaient être comme plus dans l'anticipation, puis tu sais, réalisaient que hey, on est vraiment au milieu de nulle part, puis on peut pas s'en sortir tant qu'on n'a pas fait tout le chemin au complet jusqu'à temps qu'on se rende jusqu'à Abidangava. Moi, je le voyais pas de même, tu sais. Moi, je voyais ça comme j'aime l'inconnu aussi, là. Je suis vraiment une fille qui aime être dans l'inconnu, dans le néant, mettons, dans le nébuleux. Parce que je pense que je suis comme un sac à surprises, puis je m'adapte super bien à toutes sortes de situations.
Mais c'était une façon pour vous aussi, Christine, parce que vous êtes à la fois blanche et Micmac. Vous avez refusé longtemps votre côté Micmac quand vous étiez plus sédentaire puis vous preniez un coup, là.
Ouais.
Et, est arrivé le coup de Micmac, et la Micmac, elle se promène en pleine nature. Ça, c'est une façon d'apprivoiser cette origine, la vôtre.
Je crois que je trouve vraiment une sérénité, puis tu sais, une paix que je peux pas trouver ailleurs, à part quand je suis dans le plein air, quand je suis à l'extérieur. Puis je crois que c'est vraiment en dedans de moi, là, dans mes racines, Micmac, d'être un peu nomade, en fait. Nomade et active et à la recherche d'aventures puis de défis. Auparavant, je vous dirais que c'était pas dans ma personnalité. C'était à quelque part, mais c'était pas alimenté, tu sais.
Ouais.
Je craignais le pire tout le temps. Puis aujourd'hui, écoute, je crois que je vis de ça, je carbure à l'aventure et j'ai toujours besoin de foncer, j'ai toujours besoin d'avoir comme un projet quelconque.
Dans le film, quel a été le processus de choix pour les trois filles? Vous êtes très différentes, les trois, dans le film.
Uh-huh. Je crois qu'ils voulaient vraiment comme un background différent pour chaque personne. Donc, une fille qui avait 20 ans, une qui avait 30, une qui avait 50. Fait qu'on s'entend que toutes les trois, on a des bagages carrément différents, des expériences de vie différentes. Et aussi le fait de nos provenances, une Montréalaise, une Micmac, une Inuit. Je crois que tout ça, ça a fait en sorte que ça s'est comme tellement bien mélangé. Puis tu sais, je pense à Dominique qui est maman. Elle voulait comme nous avoir comme sur son aile. Là, je me souviens, elle trouvait ça comme difficile au début parce que moi et Katrina, on est comme un peu plus indépendantes. Puis elle voulait comme un peu nous, je pense le dire, le materniser. Fait que ça a été comme une adaptation qui a été c'est comme je dis, ça a été difficile. Pour ma part, ça a été difficile parce que je trouvais que c'était prendre ma place dans le groupe à travers de tout ça.
Est-ce qu'il y a eu des moments particulièrement difficiles? Vous pouvez nous en raconter un ou deux?
Oui. Physiquement parlant, moi, ma pire expérience, c'était traverser une rivière. C'était comme la dernière rivière qu'il fallait qu'on traverse à pied. J'ai toujours eu une grosse crainte, une grosse peur là, de l'eau, dans le fond, du courant. Fait que juste cette traversée-là, là, il a fallu qu'on la traverse toute la gang ensemble à l'aide de Alex, le guide.
Avec de l'eau jusqu'à la ceinture, là.
Ah, j'en avais quasiment jusque... J'en avais en haut du nombril, moi, là.
Ah,
oui. Ah, oui, tu sais, on était comme en arrière, donc le courant montait. Tu sais, dans le fond, la rivière était plus haute quand ça arrivait vis-à-vis la troisième rangée, mettons. Puis, effectivement, ben, j'anticipais le pire, puis le pire est arrivé, mes deux pions partis, puis... Mais c'était une fraction de seconde que Dominique, elle m'a comme ramassé, puis tu sais, je m'ai sentie en confiance tout de suite, là. Puis ça, je pense, ça a été comme le déclic d'une vie, là, comme, OK, unis, on fait la force.
Vous faites encore maintenant de ce genre de randonnée, vous adorez ça, vous carburez à ces aventures-là. Est-ce que c'est différent de le faire quand il y a des cinéastes qui vous suivent ou qu'il n'y a pas de cinéastes qui vous suivent?
Ben oui, c'est sûr que c'est totalement différent. Mais, tu sais, éventuellement, on oubliait qu'il y avait du monde, tu sais, qui était là pour nous filmer, tu sais. Comment je pourrais vous dire ça? C'était tellement comme spontané quand on se faisait comme filmer parce qu'ils prenaient comme les meilleurs moments, mettons, comme les moments où il y avait justement de l'action, où les émotions sortaient, où il y avait des...
On va se laisser là-dessus, Christine Bérubé, c'est tout le temps qu'on a. Okay. Christine Bérubé-Martin, de ce film qui s'appelle Traversée. Aujourd'hui, à l'émission, nous avons entendu Michel Jean pour son livre Cocoum. Nous avons aussi eu Christine Bérubé-Martin pour le film Traversée qui prendra l'affiche sous les supports informatiques de Duparc, Cinéma Duparc de Beaubien, Clapeur, Québec. L'équipe de l'émission, Maurice Bolduc à la régie, Claire Guérin à la recherche et Louis Garon à la coordination. Et c'est Robert Blondin. À la semaine prochaine.